Épiphanie, fèves et frangipane, c'est le retour du débat éco en 2022. Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Dominique, vous avez la voix cassée ce matin, mais elle est rauque et chaleureuse et on tendra l'oreille. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un événement boursier avec la société Apple qui a donc atteint en début de semaine à Wall Street une valeur totale de 3000 milliards d'euros. L'entreprise n'a d'ailleurs mis que 16 mois, me disiez-vous, Dominique, 16 mois pour passer de 2000 milliards à 3000 milliards. Alors, qu'est-ce que ça dit du capitalisme, de la technologie? Pourquoi Apple? Voilà quelques-unes des questions du jour. Pour commencer, comment, Dominique, analysez-vous le franchissement de ce seuil?
C'est vrai que c'est absolument incroyable, hein, parce que c'est plus que le PIB français, même si comparer des stocks et des flux n'a pas beaucoup de sens. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les bourses vont si bien. Bon, ça c'est très simple, c'est parce que les taux d'intérêt sont très bas et donc les investisseurs, l'épargne mondiale va vers les entreprises. Donc ça, c'est un phénomène assez classique, mais en même temps historique. La vraie question, c'est pourquoi l'épargne mondiale va d'abord vers les valeurs technologiques. Et là, c'est très intéressant parce que il y a quelques dizaines d'années, il y a quelques années, l'épargne mondiale, l'investissement allait vers les grosses entreprises, General Motors, l'énergie, les banques, beaucoup de salariés, beaucoup de chiffre d'affaires, une puissance industrielle forte. Elles vont aujourd'hui, cette épargne mondiale va vers l'innovation, vers la technologie. Pendant 15 ans, Amazon a perdu de l'argent et les investisseurs étaient là. Et donc, alors la raison elle est toute simple, et je finis par ça, c'est que nous sommes dans une révolution technologique, véhicule électrique, digital bien sûr, qui est aussi puissante qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e, au moment de l'électricité, des premières communications, les voitures, etc. Et donc, c'est phénoménal, et c'est pour ça qu'Apple... Alors après, on se posera la question, pourquoi Apple?
Voilà, mais pourquoi voilà Apple, on va y venir.
Voilà la raison.
Allez, une gorgée de café chaud pour vous, Dominique. 3000 milliards de dollars. Thomas, quelle analyse?
Oui, alors d'abord, c'est important quand même de remettre en perspective ce chiffre, parce que vous savez, le PIB des États-Unis, lui aussi, il n'a jamais été aussi élevé, le PIB mondial n'a jamais été aussi élevé, donc il faut essayer de rapporter quand même ces différentes quantités les unes aux autres, sinon ça n'a pas beaucoup de sens de dire... Donc, le PIB des États-Unis, c'est 20 000 milliards, c'est vrai que là, on est à 15%, l'équivalent de 15% du PIB, c'est vrai que si on remonte dans l'histoire...
C'est fou, non? Oui, excusez-moi de le dire alors, en termes profanes.
Oui, pour aller quand même un peu plus loin, peut-être qu'il faut remettre par rapport au PIB mondial, parce que le marché de Apple est mondial, le PIB mondial, c'est 100 000 milliards, donc là, on est seulement à 3%. Dernier chiffre, je m'arrête là, comme le disait Dominique, c'est un stock, c'est la valeur totale d'une entreprise. La valeur totale de tout ce qu'il y a à posséder dans le monde, entreprise et immobilier, c'est à peu près 5 années de PIB mondial, donc c'est à peu près 500 000 milliards. Pour résumer, Apple représente 0,5% de tout ce qu'il y a à posséder dans le monde.
Mais
ce
donc
qui est
en
quand
fait,
même,
c'est rien.
Non, parce que c'est quand même énorme pour une seule entreprise. Et alors, ce qui a plus de sens, c'est plus de remonter dans l'histoire. C'est pour le coup, c'est vrai que si on regarde les grandes capitalisations de l'histoire aux États-Unis, donc c'était General Motors dans les années 50, AT&T dans les années 70, General Electric encore avant, on peut remonter au 19e siècle, les plus fortes capitalisations de l'histoire allaient plutôt représenter 5-10% du PIB des États-Unis. Là, on est à 15%, c'est vrai qu'on est au-dessus. Il faut pas oublier quand même que même si l'entreprise est très internationalisée, le marché américain représente encore 40% des ventes d'Apple, c'était plus de 50% il y a 10 ans. Donc il faut aussi, quand on fait des comparaisons avec la France, avec l'Europe, il faut quand même aussi ramener par rapport à l'économie des États-Unis. Après, il y a un contexte réglementaire, politique, technologique. C'est-à-dire, on voit bien que la digitalisation, le confinement a énormément boosté tout ce qui est l'économie à distance. Il y a le contexte monétaire qu'a mentionné Dominique. Et puis, il y a un contexte réglementaire, fiscal, qui avantage énormément
les entreprises.
Sur le PIB, la valorisation d'Apple a progressé infiniment plus vite que le PIB des pays, que le PIB américain. Donc, il se passe quelque chose. Pourquoi Apple? Pourquoi Apple?
Vraie question.
Parce que c'est une vraie question, parce que, après tout, Apple, c'est quoi? 15% des téléphones dans le monde. Samsung est devenu beaucoup plus important pour vendre des téléphones. Donc, pourquoi sont-ils restés aussi puissants avec leurs iPhones? 200 milliards de chiffre d'affaires, à peu près. À mon avis, il y a trois raisons. La première, c'est que ils ont inventé un modèle où on sépare totalement le hardware, c'est-à-dire la fabrication des téléphones, qui est complètement externalisé et sous-traité, et le software, les logiciels, la conception des puces, ils l'ont gardée chez eux. Et ça, ils l'ont gardée dans un modèle fermé. Mmh. On sait bien chacun que les téléphones Apple ne peuvent pas tellement communiquer avec les autres. Il y a des discussions d'ailleurs à l'infini et c'est un problème concurrentiel. Mais ils ont inventé un modèle de développement qui est assez stupéfiant et qui marche encore. 20 ans après, la marque Apple, ça existe encore. Et le dernier élément qui fait qu'Apple est très particulier, c'est que le modèle a été inventé par Steve Jobs, qui est mort il y a 2011, je crois. Tim Cook, quand il est arrivé, tout le monde a dit il va jamais réussir à maintenir le modèle. Il a inventé quelque chose de neuf. Il a dit oui, mais nous, on va aller dans les services. Mm-hmm. Apple Pay, Apple TV. Ils ont inventé un certain nombre d'autres choses et donc ça représente quand même maintenant c'est assez important le cloud aussi voilà et donc ils ont gardé la suprématie.
Mais alors pour caricaturer les propos de Dominique Thomas Piketty, Apple est resté un vendeur de téléphones et d'ordinateurs avec un nuage de services et de produits autour. On pourrait dire qu'une entreprise comme Amazon a beaucoup plus bouleversé le réel et absolument tous les secteurs économiques qu'elle approche. Pourquoi Apple donc?
D'abord, non mais ça se discute. Est-ce que Amazon a plus innové? Il y a
Apple. J'ai dit bouleversé.
Apple a réussi à établir une réputation de qualité pour ses produits et fabrique des produits, enfin fait fabriquer, mais organise la fabrication de produits qui, en termes de fiabilité, les gens font énormément confiance. Maintenant, tout ça, si on remet un peu plus en perspective, le mouvement d'investissement dans la tech et de développement de la tech aux États-Unis, c'est vrai, avait une avance sur l'Europe dès la fin des années 70, début des années 80, et ça vient de très loin, ça vient du fait que l'économie américaine, qui était leader historiquement tout au long du 20e siècle, parce qu'il y avait une avance éducative, une avance en capital humain, en formation. Vous savez, il n'y a pas de Silicon Valley sans Berkeley, Stanford, etc. Donc c'est tout cet écosystème d'innovation, de formation qui fait que les États-Unis investissent dans la tech bien avant l'Europe, dès la fin des années 70, début des années 80. Et après, il y a un soutien du gouvernement fédéral états-unien. Il y a une taille de marché aux États-Unis qui, quand même, représente encore 40% du marché d'Apple. Donc il y a tous ces facteurs qui jouent. Il y a un contexte aussi à la fin de la période sur l'absence de politique antitrust aux États-Unis. C'est-à-dire, autant les États-Unis avaient cassé AT&T dans les années 70, autant là, ils ont décidé de laisser faire, alors sur les plateformes, une absence totale de régulation. Sur Apple, ça se pose un peu différemment, mais il y a quand même des enjeux en termes de régulation. Ça va au-delà de la question de la fiscalité. C'est aussi, vous savez, c'est pas un modèle. Le fait de pas pouvoir changer les pièces, et de pousser à l'obsolescence programmée, le renouvellement permanent. On pourrait dire, d'un point de vue de développement durable, de régulation publique, il devrait y avoir une exigence d'avoir plus d'interopérabilité, vous le disiez, entre les téléphones, de pouvoir changer la batterie sans changer tout le téléphone, etc., etc. Donc il y a un problème de régulation.
Mot, Dominique.
Le gouvernement américain a eu un rôle certainement sur SpaceX. Il n'y a aucun doute là-dessus, sur l'Internet, mais sur Apple ou Amazon,
c'est plutôt l'absence de régulation. Oui.
Mais évidemment, la question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi l'Europe n'arrive pas à faire ce genre
de
choses.
Alors oui, mais sur l'Europe, on va y venir, mais je voulais demander à Thomas Piketty d'abord sur la position de monopole ou les positions hégémoniques qu'ont ces entreprises dans leur secteur, ces entreprises dont on sait qu'elles faussent ou qu'elles tuent ou qu'elles rachètent la concurrence, dont on sait qu'elles pratiquent l'évasion fiscale. Ces manières de faire là expliquent aussi leur succès, et si oui, dans quelle proportion?
C'est énorme. Vous savez, on peut pas séparer.
Est-ce qu'on peut quantifier?
Non, on peut pas être sûr, mais vous savez, c'est à nouveau, si on veut revenir dans l'histoire et qu'on veut trouver des capitalisations qui dépassent ce niveau, à nouveau relativement à la taille de l'économie de chaque époque, il faut revenir aux grandes compagnies de l'époque coloniale. Vous savez, les compagnies du Mississippi, les compagnies des Indes occidentales, mais qui étaient des compagnies qui avaient des armées privées, des... Enfin bon, là, on n'est pas tout à fait là en termes de pouvoir, mais on a quand même un pouvoir sur les États, et qui vient aussi d'un choix politique et idéologique des États depuis quelques décennies, de ne pas appliquer de politique antitrust, de ne pas réguler les produits quand il y a des problèmes environnementaux, de durabilité, de laisser les plus grandes entreprises payer structurellement moins d'impôts que les moyennes entreprises qui essayent de rentrer sur le marché. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est quand même un facteur puissant qui permet aux plus gros de devenir toujours plus gros et de damer le pion. Ce qui n'est pas du tout bon du point de vue de l'innovation et de la productivité.
Clairement, les États-Unis en ont fait un instrument de leur soft power depuis des années. Et c'est pour ça que l'idée d'un démantèlement en dehors de Facebook... on ne verra jamais ça en dehors de Facebook, parce que pour eux, c'est un instrument de puissance absolument incroyable. Ce qui est un peu triste, c'est que nous sommes condamnés à faire quoi ? Nous sommes condamnés à...
Nous, les Européens.
Nous, les Européens, à faire quoi? Eh bien, à dire, bon, on va taxer, on met des amendes, mais on préférait avoir des acteurs aussi qui concurrencent. Et donc, la vraie difficulté. Et si on se regarde, si on se sculpte un peu, qu'est-ce qu'on voit? Bon, évidemment, il y a la taille du marché, il y a la langue, il y a tout ce qu'on veut.
L'Europe, c'est pas un petit marché, hein.
C'est un énorme.
C'est même le plus gros.
Mais oui, mais il est très compartimenté. Oui. Il est morcelé. Et il y a eu pendant des années, c'est moins vrai maintenant, notamment en France, un problème de financement. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'argent pour aller... En gros, l'innovation est financée en Europe par les, globalement par les banques et par les marchés aux États-Unis. C'est en train, heureusement, de changer. Mais il y a aussi un facteur culturel. Je vais résumer ça en disant, c'est vrai que les États-Unis sont très Schumpeter, nous on est très Keynes. C'est-à-dire que nous on raisonne en macroéconomie, eux ils regardent aussi la microéconomie, et c'est vrai, ouais, c'est caricatural, oui, Thomas, je vous vois, il y a un peu de ça quand même, je pense.
Allez, on en reste là sur ce premier sujet, messieurs, parce que je voudrais vous entendre en quelques mots pour finir, sur le fait de savoir ce qui est à vos yeux la plus grande opportunité économique de 2022 et le plus grand risque, Thomas Piketty.
Ah là là, écoutez, en lien avec ce qui précède, moi je voudrais dire que là on a des taux d'intérêt faibles, on a un manque d'investissement. Si la France et l'Europe idéalement, mais déjà la France pouvait avoir un grand plan d'investissement dans l'environnement et dans les universités, c'est-à-dire je n'y aurais pas eu cette avance états-unienne sans Berkeley, Stanford, etc. Oui, oui. Et l'Europe devrait avoir un immense plan pour porter ses universités au niveau des universités états-uniennes. Pour commencer, en France, il faudrait enfin investir pour les étudiants des universités, ne serait-ce qu'au niveau des classes préparatoires des grandes écoles. Vous savez, ce qui n'est pas le cas en France. Et l'investissement dans l'éducation a baissé de 14% en France depuis 2007, de 7% depuis 2017, le début de ce quinquennat. Et pour moi, c'est le grand gâchis. C'est pas seulement ce quinquennat, c'est aussi les 10 dernières années. Mais ça, voilà, c'est vraiment ça. Bah, le principal risque, c'est qu'on ne fasse rien. Le principal risque, c'est qu'on laisse aussi l'inflation énerver tout le monde, parce qu'il y aura des perdants et on va perdre beaucoup de temps à discuter de ça. Voilà.
Dominique.
Alors, en lien avec le sujet précédent, la plus grande opportunité, c'est si, en Europe et notamment en France, nous avons des GAFA qui émergent. Hier est arrivée en France la 23e licorne, PayFit. Vous n'avez jamais entendu parler. C'est établissement des salaires dans les PME. Plus d'un milliard d'euros de capitalisation. Tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Ce qui serait l'autre grande opportunité, c'est si on arrive à bien contrôler l'affaire de l'inflation, s'il y a des hausses de salaires. Dans les Échos ce matin, la chef économiste de l'OCDE, Laurence Boone, dit il y aura des hausses substantielles de salaires en France, et c'est une bonne nouvelle, c'est contrôlé. Le plus grand risque, c'est si le château de cartes s'écroulait, c'est-à-dire que le miracle qui fait qu'on arrive aujourd'hui à financer les dettes, à contrôler malgré tout la politique économique, les banques centrales sans catastrophe, il faut que ce miracle dure. Attention à l'écroulement du château de cartes.
Merci à tous les deux. La voix, Dominique Seux, a tenu. Je voudrais, en ce 7 janvier, dédier ce débat éco, messieurs et amis auditeurs, à la mémoire de Bernard Maris. Absolument. Et à la mémoire de nos amis de Charlie Hebdo, assassinés il y a 7 ans. France Inter.